Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, on reçoit Yves Pétard, délégué départemental de la Vienne de l'UNAFAM, pour un bilan un petit peu de l'accompagnement qu'ils peuvent proposer aux familles. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, pour préciser, donc, l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques, quel est un petit peu juste... Pour repréciser à nos auditeurs et auditrices, votre rôle.
Le rôle, c'est d'abord d'accueillir les personnes qui ont un proche qui a des souffrances psychiques qui relèvent plus ou moins de la maladie qu'on appelle sévère et invalidante, mais les frontières ne sont pas évidentes.
Alors, on va décrypter ensemble, vous dressez un bilan annuel de l'accueil que vous proposez. On va essayer de dresser ensemble un petit peu les résultats, voir les détails. Mais si on veut faire un aperçu principal, les principales conclusions que vous tirez de ce bilan que vous avez fait pour l'année dernière, l'année 2023.
La première caractéristique, c'est l'évolution très significative du public. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit des jeunes en souffrance. Avant, l'UNAFAM, c'était plutôt une association de parents plus que cinquantenaires avec des enfants adultes souffrant de troubles psychiques. Là, maintenant, on a vraiment une explosion des souffrances de jeunes et donc des parents cadra quinca.
Donc ça, c'est la principale conclusion. Et quelles sont un peu les tendances, justement, les plus préoccupantes que vous observez ces dernières années ?
La plus préoccupante, c'est la criticité des situations, c'est-à-dire des jeunes de plus en plus jeunes qui ont des convictions suicidaires, au-delà des propos suicidaires, qui passent à l'acte, et qui passent à l'acte y compris en faisant des tentatives en milieu hospitalier, qui est normalement un milieu protégé. Donc là, on a vraiment l'impression que le désespoir progresse.
Alors vous mentionnez effectivement une augmentation des appels concernant des jeunes en souffrance psychique. Qu'est-ce qui explique cette tendance selon vous ?
Là, moi, je ne suis pas sociologue. Donc on peut parler de ce qu'on approche, nous. Donc, on voit ça à longueur de revue de presse. C'est l'éco-anxiété, c'est les conflits armés ici ou là. C'est des dispositifs du genre de Parcoursup qui n'apportent pas de l'apaisement. On peut pas dire. C'est donc une espèce d'appréhension devant le monde tel qu'il ne va pas et qui ne laisse, semble-t-il, aucune place pour le pouvoir d'agir, pour le fait de prendre sa vie en main et de la conduire en ayant des satisfactions à un niveau correct, potable.
Et quels sont les dispositifs que vous pouvez mettre en place pour aider les familles pour gérer ces situations de jeunes qui souffrent ?
Donc d'abord pour nous, c'est tout proche qui se trouve dans cette situation a le sentiment d'être seul au monde à vivre ça. Donc c'est de casser ce mythe destructeur. Je ne suis pas seul au monde, il y a plein de gens dans ma situation. Bon, ça résout pas tout, mais ça aide. Ensuite, on propose des groupes de parole, on propose des formations et de plus en plus, on s'articule positivement avec le centre hospitalier Laborie, sa maison des ados Place Notre-Dame, sa maison de l'enfant et de la famille, etc. Donc, on a une de nos bénévoles qui est co-animatrice d'une formation qui s'appelle Connexion familiale, qui s'attache à donner des armes pour gérer les situations aux parents de jeunes souffrants de troubles borderline, troubles de la personnalité limite. Enfin, donc, on coopère pour qu'il n'y ait pas de rupture. Parce que la grande question dans tout ça, c'est comment faire en sorte que, quand il y a un bout de décrochage scolaire, on prenne le relais avec du soin, on prenne le relais avec d'autres accompagnements, et on ne se situe surtout pas dans une attitude de stigmatisation. C'est la faute aux parents, il n'y a qu'à leur couper les allocs, et puis ça sera réglé. C'est la faute aux enseignants, parce qu'ils ne sont pas gentils. C'est la faute aux copains parce qu'ils harcèlent, etc. Donc, dans tout ça, il y a bien sûr du vrai, mais on pense que ce n'est pas la cause majeure, première et la plus structurante.
Alors, ce que vous notez dans votre rapport aussi, c'est que la personne qui prend contact en majorité, ce sont les mères.
Ça, c'est pas nouveau, par contre.
Ouais, ça a toujours été, ça n'évolue pas. C'est elle qui garde cette inquiétude pour les jeunes.
Ce qui est très nouveau aussi, c'est qu'on a des jeunes qui appellent pour leurs parents adultes, pour leurs frères et sœurs, etc. Donc, dans notre rapport national, on a mis en évidence un témoignage d'un père, un quadragénaire, qui dit « C'est ma fille de 13 ans qui m'a dit « Tu crois pas que maman est bipolaire ?» Et elle avait bon.
Donc, comment on l'explique ? On est plus sensibilisé aujourd'hui ?
Oui, donc il y a accès en direct à un certain nombre d'informations, soit sur Internet, soit dans... On parle quand même de santé mentale. L'éducation nationale a inscrit ça à son agenda. Et on espère qu'avec la grande cause nationale, ça va se conforter, se renforcer. Mais donc, effectivement, il y a des progrès de ce côté-là sur la connaissance. En revanche, là où il y a moins de progrès, c'est la stigmatisation qu'on trouve à chaque coin de rue.
Et alors, vous accompagnez donc ces familles. Vos bénévoles, comment ils sont formés à accueillir ces personnes ?
Ils ont un parcours, d'initiation à l'UNAFAM d'abord. C'est quoi tout cet univers de la psychiatrie ? C'est quoi la place d'un bénévole ? Il ne s'agit pas de se mettre à la place d'un médecin, d'un infirmier psy, d'un travailleur social, d'un prof, etc. Il s'agit d'être à sa place de parent. Et donc on ressort notre slogan « La famille fait partie de la solution ». La famille n'est pas la solution. Donc il faut travailler avec les autres. Donc on apprend à nos bénévoles à travailler avec les autres. Et puis, on apprend aussi à découvrir les manifestations des différents troubles. Alors donc, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas forcément le diagnostic, parce que le diagnostic, ce n'est pas notre job de savoir si c'est un trouble schizoaffectif ou si c'est une bipolarité de type 2, etc. Ça, on s'en moque. En revanche, ce que les aidants ont besoin de savoir, c'est oui, c'est un trouble psychique sévère qui va nécessiter un accompagnement médical au long cours. Donc, quand on dit, nous, on a besoin du diagnostic, c'est ça le diagnostic. Ce n'est pas un diagnostic clinique, c'est un diagnostic de difficulté à vivre. Et donc, on essaie de permettre aux gens de poser les bonnes questions à leurs interlocuteurs professionnels.
Et souvent, vous êtes le premier contact avant peut-être un parcours de soins
Le premier ou pas, ça dépend. Donc, de plus en plus, on commence à avoir des partenariats avec des plateformes de répit, avec le monde enseignant, avec des travailleurs sociaux ou des animateurs de maisons de quartier, etc. Lors de l'avant-dernière session des semaines d'infos sur la santé mentale à Tison, là, donc, on a eu des étudiants en médecine qui, dans le cadre de leur service sanitaire, sont venus rencontrer des gens de Psychom. Psychom, donc une ressource publique trop peu connue. Si vous pouvez refaire de la pub pour Psychom en dehors de nous, ce serait bien aussi.
Peut-être vous pouvez repréciser ce que c'est.
Donc c'est un organisme public de ressources d'information avec plein de brochures qui sont disponibles en ligne, qu'on peut aussi commander gratuitement. Sur les pathologies, mais encore une fois, les pathologies, il faut prendre ça avec circonspection, mais c'est surtout les situations de souffrance et les moyens d'en sortir.
Et l'UNAFAM, vous êtes aussi là pour alerter au niveau national, puisque vous êtes une fédération nationale, sur les problématiques, notamment sur la continuité des soins, ce que vous appelez les sorties sèches. Est-ce qu'on peut peut-être en parler ?
On doit en parler, parce que c'est un drame. Donc, alors, les sorties sèches, c'est le produit de tout un tas de facteurs. C'est qu'en France, on est très bien formé, chacun dans sa discipline, chacun dans son couloir de nage, on est très très fort. Mais sur la latéralité, on est beaucoup moins bon. Donc, un parcours d'accompagnement, il faut mettre en œuvre des relais. Donc, rien qu'un relais psychiatrie, pédopsychiatrie, psychiatrie adulte, là, il y a une marche, on peut tomber sur la marche. Comment est-ce que le soignant communique avec le travailleur social ? Comment le soignant en milieu hospitalier communique avec le soignant en libéral, médecin généraliste, qui, c'est dramatique dans notre pays, n'a pas été assez formé à toutes les questions de santé mentale, alors qu'a priori, ça doit représenter un gros tiers de sa patientèle ? Enfin, donc, on a plein de choses trappes. Et donc, nous, notre fonction, et on commence à être reconnu comme ça, c'est aussi d'être catalyseur de relations. À travers des instances comme le Conseil local de santé mentale, comme la commission spécialisée santé mentale du Conseil territorial en santé, etc. Donc, on essaie de distribuer du lien un peu partout et de faire en sorte que les gens se rencontrent.
Et quels sont justement les défis les plus courants rencontrés par les familles que vous accueillez dans votre association ?
Bah, le premier défi, c'est un téléphone qui sonne dans le vide parce que il n'y a pas assez de personnel pour. Donc tout le monde dit la prévention, la prise en charge précoce, c'est l'alpha et l'oméga d'un rétablissement. Et puis quand vous voulez appeler un CMPP ou vous voulez avoir un conseil, ben on vous dit vous reviendrez dans un an parce que pour l'instant c'est ma liste d'attente. Donc c'est là aussi qu'on est un peu content que la santé mentale soit grande cause nationale. Même si on n'est pas forcément absolument naïf et on pense que dans la situation financière actuelle, on ne va pas avoir une augmentation significative des moyens. Mais enfin, déjà, si on inscrit à l'agenda de la sensibilité de la société pour dire que non, la psychiatrie, ce n'est pas la dernière des saloperies de discipline médicale, et qu'au contraire, c'est passionnant. Dire qu'on peut aussi avoir des rétablissements spectaculaires, il suffit d'aller voir dans les associations de patients, ex-patients, dans les groupes d'entraide mutuelle, etc., des gens qui sont heureux de vivre après avoir fait de longs parcours en hospitalisation, en soins assez lourds, etc. Donc c'est ça qu'on doit lutter contre ce fatalisme, ce pessimisme, qui est un motif de non-recours aux soins. Parce que je n'ai pas envie de reconnaître que mon frère, que mon conjoint, que mon enfant a des troubles psychiques. C'est tellement un épouvantail que je vais plutôt essayer d'éviter tout contact avec la psychiatrie. Et ça, c'est dramatique.
Restez avec nous, on va continuer à parler de ces résultats, effectivement, de la question de la stigmatisation peut-être dans notre société. Yves Pétard est avec nous, il est délégué départemental de la Vienne de l'UNAFAM. Et tout de suite, on écoute Youssi et son titre « Sad Jacara ».
You are here, you are here, my beautiful darkness. Pulsar.
C'était Sacha Ivy qui sera en concert ce soir dans le cadre du festival Culture Barbare. Et notre invité du jour, c'est Yves Pétard, délégué départemental de la Vienne de l'UNAFAM. On parle de la situation des familles dans la Vienne, celles qui ont un proche, un enfant ou un parent qui souffre de troubles psychiques. On était en train de discuter de comment on entre en contact avec des personnes quand on a un trouble. Et alors, vous avez sorti des chiffres qui font un peu peur par rapport à la place du médecin soignant.
Oui, donc sur 100 prises de contact qu'on a eues en 2023, une seule avait été provoquée par un médecin généraliste. Alors que le médecin généraliste, c'est le référent de proximité qui connaît normalement les difficultés d'une famille, d'un groupe, etc. Donc, un seul de ces 100 cas a été orienté par un médecin généraliste.
Comment on l'explique et comment on peut faire évoluer cette situation?
Donc, il faut s'adresser aux formateurs de médecins. C'est ce qui a été fait, que j'évoquais tout à l'heure, dans le cadre des semaines d'infos sur la santé mentale l'année dernière. Il faut en parler, et on en parle très bien en Conseil territorial en santé, maintenant avec le président de la commission des établissements de Laborie et puis son directeur général. Donc la commission spécialisée santé mentale, maintenant, invite les délégués des communautés pluriprofessionnelles territoriales en santé, c'est-à-dire les regroupements sur un territoire de soins de médecins généralistes, d'infirmiers libéraux, de dentistes, de pharmaciens, de kinés, d'ergos, etc. Donc ces gens-là maintenant disposent d'une capacité d'organisation collective, parce qu'il y a des postes de coordonnateurs qui sont financés par l'Agence régionale de santé. Et c'est le cas, par exemple, à Châtellerault, où on a des contacts étroits. On est invité à leur séance annuelle conviviale et autres pour parler de tout un tas de situations. Donc, on commence à être identifié. C'est ça qui est terrible, c'est que nous n'étions pas identifiés. Tout le monde connaît l'APF France Handicap, la Ligue contre le cancer, l'AFM Téléthon, etc. Mais nous, c'est un objet de solidarité non identifié dans le paysage.
Alors, vous parlez tout à l'heure des difficultés liées à l'accès à une continuité des soins, par exemple. Il y a aussi l'accès aux droits qui pose des vraies difficultés pour les personnes qui souffrent de ces troubles.
Oui, parce que comme les manifestations des difficultés à vivre sont plus variables que dans d'autres difficultés, il y a des moments où on pense que finalement, il tire un peu sur la ficelle, c'est le vieux procès en assistanat, il a ses deux mains, ses deux jambes, il n'est pas dans un fauteuil, il voit clair, il entend clair, de quoi il aurait besoin? Enfin, il suffit qu'il se bouge un peu, qu'il sorte de son canapé, et puis il pourra bosser, quoi. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Donc la moraline qui est injectée à haute dose dans les analyses de situation est d'ailleurs intériorisée par les personnes concernées qui s'auto-stigmatisent et qui ne demandent plus rien. Et cette maladie est contagieuse, c'est-à-dire que les aidants ne demandent plus rien non plus. Donc l'accès aux droits, on le martèle, ça fait partie de nos combats. Illustration simple, des gens qui ont un proche hospitalisé au CHU, ils savent qu'il y a la maison des familles au CHU. Eh bien, quand j'ai évoqué la même question à Laborie, la direction de Laborie n'avait jamais été saisie d'une demande de proches aidants vivant loin de Laborie, ayant besoin d'un hébergement pour venir faire une visite. Ça veut dire que les gens ne demandent pas. Donc le premier point pour accéder aux droits, c'est de demander. Ensuite, le parcours est un peu délicat. Constituer un dossier pour la maison départementale des personnes handicapées, ça tombe pas forcément sous le sens. Donc là, on peut aussi y intervenir. Mais les travailleurs sociaux, si on leur demande, ils peuvent aussi travailler en ce sens. Mais quand il n'y a pas de demande, l'accès aux droits, c'est du renoncement tacite aux droits potentiels.
Alors justement, est-ce qu'il y a des différences dans les problématiques rencontrées par rapport, en 2023, par rapport aux années précédentes?
Disons que là, ça commence à évoluer, mais un tout petit peu. Donc, on continue à marteler les affaires. Donc c'est pour ça qu'on siège dans tout un tas d'instances auprès de la MDPH, auprès du département, etc. Comment est-ce que dans une société, même si elle connaît des difficultés financières comme la nôtre, mais qui est quand même la sixième puissance mondiale, on peut se satisfaire du fait qu'après une hospitalisation, un jeune de 22 ans dont tout le monde se dit qu'il a besoin d'être accompagné par un SAMSA, un service d'accompagnement médico-social à domicile, qui est bon, en plus un service qui est raccord avec les attentes d'inclusion, de vie dans la cité, etc. Il faille en moyenne 5 ans, compte tenu du débit d'entrée, de sortie et des capacités du dit service. Donc là, on est sûr qu'on a une désinsertion sociale, qu'une aggravation, un enkystement des troubles. Et donc, la seule réponse qu'on nous fait, c'est « il n'y a pas de sous ». Et nous, on dit, dans une société aussi développée que la nôtre, c'est un scandale.
Alors que la santé mentale a été identifiée comme cause nationale, vous le disiez. Donc on en parle plus peut-être, mais quelles actions maintenant vous aimeriez voir mises en place ?
Alors il y a des actions qui relèvent de l'interconnaissance, enfin c'est ce qu'on développe beaucoup avec le conseil départemental, avec le conseil local de santé mentale de Poitiers, avec les CPTS que je citais tout à l'heure, etc. Avec les mairies, il faudrait aussi accentuer ça. Donc l'interconnaissance, savoir que ça existe, savoir quels sont les circuits, savoir à quelle porte frapper, connaître les sites internet, les numéros de téléphone, etc. Donc ça coûte rien. Et lutter contre la stigmatisation, c'est pas simple, mais ça coûte rien non plus, c'est pas une question d'argent. Puis après, bah, il faut des professionnels quand même pour accueillir les gens dans les structures soignantes, qu'elles soient hospitalières ou extra-hospitalières. Si on a un désert médical, si on a un désert psychiatrique, si on a un désert social, bah là, c'est la cata.
Et alors justement, comment vous travaillez avec les différentes structures qui se sont créées là récemment, la maison des adolescents, la maison pour les enfants et puis le bus aussi qui se promène dans les territoires? Ça, ce sont des nouveaux acteurs qui vous soutiennent?
Qui nous soutiennent et que nous soutenons.
Oui. Qui soutiennent votre action en tout cas.
Donc c'est comme ça qu'on conçoit le partenariat, c'est-à-dire que c'est pas nous on est une petite équipe de bénévoles, hein, on n'a aucun salarié permanent, on a un quart de salarié par département de l'ex-Poitou-Charentes, donc c'est pas nous qui allons nous promener dans le bus. En revanche, dire que le bus existe, dire dans les communes où nos adhérents habitent, faites venir le bus, expliquez que ça existe à votre médecin, à votre dentiste, à votre pharmacien, on contribue à ce que ces outils-là servent.
Merci beaucoup Yves Pétard. Donc vous êtes délégué départemental de la Vienne de l'UNAFAM. Merci d'être venu nous alerter sur ces difficultés et notamment sur la place des jeunes de plus en plus présente dans ces personnes qui souffrent. Merci beaucoup.
Et on a besoin d'étudiants qui pourraient venir faire du bénévolat chez nous.
Le message est passé. Merci bien. Demain, dans le Café de la Presse, on parlera sport et plus particulièrement cyclisme. Et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Leur mot à dire, rap et trouble 10, c'est à 14h à l'amphi Virginia Woolf, à l'UFR Lettres et Langues sur le campus de l'université. Leur mot à dire, dans le cadre du cycle Les Amphis des Lettres au présent, rap et trouble 10, projection du film documentaire d'Alexandra Riguelen, réalisatrice de documentaires et journaliste, et avec des photographies aussi de Maria Montero. La séance sera suivie d'échanges avec la réalisatrice. Pendant plusieurs mois avec le rappeur Hippocamp Fou, des élèves de première et de terminale du lycée Valin souffrant de trouble 10, ont appris à écrire des textes, les chanter au sein de leur établissement, puis les enregistrer dans un studio de la Sirène à La Rochelle. Ils ont mis des mots sur la dysgraphie, la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, la dysphonie, la dyscalculie ou encore la malentendance, ce que cela implique dans leur quotidien, ce qu'ils ont vécu depuis leur enfance. À l'occasion des 10 ans du projet Moments musicaux partagés, on en parlait cette semaine dans Séquence Midi, il y a une conférence musique et cerveau à 18h. Rendez-vous au TAP de Poitiers pour une soirée musicale inédite présentée par Emmanuel Bigan, professeur de psychologie cognitive. Accompagné par des musiciens de l'orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine, cette conférence explore comment la musique peut être un remède puissant face aux défis cognitifs modernes. Un moment à ne pas manquer pour les passionnés de musique et de sciences. Deuxième forum des métiers, GIE Tour, Oser l'industrie. Durant toute la journée à l'UT de Poitiers, vous pourrez découvrir le monde de l'industrie. Plus de 30 entreprises proposent des démonstrations interactives pour inciter les jeunes à explorer ces carrières. C'est jusqu'à 17h aujourd'hui, puis de 9h à 12h30 demain. Dans le cadre du cycle Les Amphis des Lettres au présent, à nouveau. Non, Festival Culture Barbare, pardon, j'en parlais juste avant. La musique résonnera à la Cervoiserie Poitevine à 20h avec Sacha Ivy et à 21h au Cluricum Café avec le groupe Tituba. C'est la 22e édition de ce Festival Culture Barbare, l'occasion de célébrer la scène locale. Et puis enfin, un ciné-débat à Châtellerault. La ville de Châtellerault, les cinémas Les 400 Coups organisent à 20h une séance débat autour du film L'amour et les forêts en présence des professionnels du CIDFF 86. Cet événement offre un espace de réflexion et d'échange sur les thématiques donc liées au féminisme. Sur Pulsar à 17h, c'est à ta santé sur la santé sexuelle. À 18h, c'est le Labo des Savoirs. À 19h, Poitou Pop. Et à 20h, Metal Fury. Merci Yann pour la réalisation technique de cette émission. Et cette fois, on se quitte avec Youssi et son titre Sat Jakara. Bon après-midi. À demain.